Europe 1, 18h-20h, votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Ravi de vous retrouver bien sûr pour ces deux heures d'infos. À la une de l'actualité ce soir, c'est le moteur turbo défectueux du véhicule qui est à l'origine du drame sur la 7 avant-hier soir. Le détail dans un instant dans votre journal, François Clouse. Bonsoir François.
Bonsoir Thierry, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
18h20, elle n'avait pas encore réagi à ce nouveau gouvernement Castex où l'écologie est une priorité, ainsi que les territoires et la participation citoyenne. L'ancienne candidate à la présidentielle, Ségolène Royal, sera mon invitée dans 20 minutes. 18h30, les grandes voix, deux dossiers d'actualité ce soir que l'on va décortiquer. L'emploi pour les jeunes, mais aussi le Ségur de la santé. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, patients? Je vous attends au standard 39-21. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Thierry.
On est ensemble jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir. Et on écoute ensemble Le Monde changé sur Europe 1.
Il est 18h.
Des ruptures de turbocompresseurs, dans l'énorme majorité des cas, ça ne dégénère pas en incendie, en perte de système d'assistance au freinage, etc.
Et c'est pourtant ce qu'affirment ce soir les experts qui enquêtent sur les causes de la tragédie routière de la 7, évoquant, oui, un turbo qui s'enflamme, paralysant le système de freinage du monospace. Salomé Legrand nous détaillera les premières conclusions des experts. L'avocat de la famille estime, lui, que le constructeur Renault devra s'expliquer.
D'Éric Ciotti à Bruno Retailleau, les Républicains vont debout après l'utilisation maladroite du mot « incivilité » employé par le président de la République, interrogé sur le drame du chauffeur de bus de Bayonne.
Dans l'actualité de ce mercredi émerge aussi la figure d'un héros.
Leur a sauvé la vie et c'était à la fois fou et magique. Je suis tellement fier de moi, pour toujours.
Nous entendrons le témoignage de cet étudiant comorien qui, avec ses voisins, a sauvé la vie de deux enfants enfermés dans un appartement en feu d'une cité de Grenoble.
Le CSA vient de rendre son verdict. Delphine Ernotte, reconduite à la présidence de France Télévisions.
Elles sont sept, elles n'y ont pas accès, mais elles le revendiquent. Sept femmes candidates à un poste au sein de l'Église catholique de France.
3 milliards d'euros de dépôt pour le seul mois de juin. Les Français, inquiets face à l'avenir, se réfugient toujours sur le rassurant livret A.
La Bourse de Paris en chute ce soir, une baisse de 1,32%. À 5037 points. Et puis Thierry, l'actualité de ce mercredi, c'est aussi cela. Et oui, Jagger Richards, un inédit des Stones de 74, a été exhumé ce matin. On vous dira tout à la fin du journal.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien Thierry, les orages se calment, mais la France sans nuages, excepté depuis la Gironde jusque sur l'Alsace et sur le pourtour méditerranéen. Les températures sont les mêmes qu'aujourd'hui, exactement les mêmes, entre 22 à Saint-Brieuc et 34 à Avignon. Je vous détaille cette météo tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Thierry Dagiral et François Clauss.
On en sait un peu plus ce soir sur ce qui a causé ou aurait causé le tragique accident de la 7 et la mort de 5 enfants d'une même famille lundi soir. Les premières conclusions des experts font état d'une défaillance du turbo de la Scénic qui se serait, Salomé Legrand, brutalement enflammé.
Et oui, conclusion du pré-rapport rendu ce matin qui devrait être définitivement confirmé dans 3 semaines à peu près. L'expert judiciaire en mécanique conclut que tout est parti de la casse du turbo. Celle-ci a entraîné un emballement du moteur qui a fait brûler l'huile et provoqué l'incendie de ce même moteur et peut-être de l'habitacle. Or, la panne a neutralisé tous les systèmes d'assistance du freinage, d'où cette sensation de frein qui ne fonctionne pas. C'est ce qu'avait évoqué auprès des secours le conducteur quelques secondes avant de s'évanouir. Le monospace datait, lui, de 2005. Il aurait dû passer un contrôle technique en mai, mais il n'était pour autant pas en infraction car le délai a été prolongé jusqu'à l'automne, exceptionnellement à cause de la crise du coronavirus. 4 personnes de cette famille sont toujours prises en charge dans des centres hospitaliers à Lyon, dont un enfant de 7 ans et 2 adultes dont le pronostic vital était encore engagé à l'heure actuelle.
Les précisions de Salomé Legrand du service police-justice d'Europe.
Alors bien sûr, la question qu'on se pose tous ce soir, bien sûr, c'est est-ce qu'une telle défaillance sur un turbo est tout à fait exceptionnelle ou pas?
Et surtout, comment on pourrait la prévenir? C'est la question qu'a posée François Villemain à Philippe Touzé. Il est ingénieur automobile et expert en accidentologie.
Des ruptures de turbocompresseurs, dans l'énorme majorité des cas, ça ne dégénère pas en incendie, en perte de système d'assistance au freinage, etc. Cette pièce, elle est très dépendante de l'entretien général du moteur. Pour conserver un turbocompresseur en bon état, il faut régulièrement faire les vidanges et puis remplacer donc le filtre à air et le filtre à huile pour faire la vidange. Et puis s'assurer avant un grand trajet que le niveau d'huile est conforme. Parce qu'en fait, l'un des symptômes de défaillance du turbocompresseur, ce sont des pertes de puissance, ce ce sont des traces d'huile qu'on retrouve dans le filtre à air ou à l'échappement. Donc en fait, un turbocompresseur, avant de tomber en panne, dans l'énorme majorité des cas, il y a des symptômes qui sont précurseurs, hein, qu'il faut savoir identifier. Donc le turbocompresseur, il peut parfaitement faire la durée de vie de la voiture à partir du moment où l'entretien, il est fait régulièrement.
On sent l'expert Philippe Touzet un peu circonspect. Il était interrogé par François Villemain.
Et l'avocat de la famille met en cause le constructeur, affirmant qu'aucune défaillance humaine n'a été constatée. Renault devra s'expliquer, ajoute-t-il.
Dans l'enquête sur l'incendie de la cathédrale de Nantes, le préfet, dans une conférence de presse cet après-midi, affirme qu'il n'y a eu aucune défaillance dans l'entretien de l'édifice et que même le contrôle des installations électriques venait d'être fait.
François, heureusement, l'actualité nous offre des moments plus heureux et ce fut le cas hier soir à Grenoble.
Dans cette cité de la Villeneuve, lorsqu'un incendie s'est déclaré au troisième étage d'un des immeubles, deux enfants âgés de 3 et 10 ans se sont alors précipités à la fenêtre, hurlant « On est enfermés !» Les voisins sont immédiatement mobilisés, exhortant les enfants à se jeter dans le vide, se regroupant au pied de l'immeuble pour les recueillir dans leurs bras après une chute dans le vide de 10 mètres. Parmi ces héros d'un jour, Atmounadi Walid, étudiant comérien de 25 ans.
Il pleurait haut et fort, il pleurait « aidez-nous, on n'a pas les clés, aidez-nous ». Tous les quartiers étaient là, « bravo, allez, courage, sautez, on va vous aider ». Alors c'était risqué, mais on ne pensait pas à ça, on pensait juste qu'à leur vie. Le feu a pris de l'ampleur, il y avait beaucoup de fumée et des explosions à l'intérieur. Et là, l'aîné, il a pris le courage de lancer le premier, son petit frère. Et puis c'était au tour de l'aîné, il a monté sur la fenêtre et puis il s'est lâché et on l'a réceptionné encore. On parle de héros, les héros c'est eux, ils étaient tellement forts et courageux. Quand ils sont descendus, ils étaient par terre, ils ne pleuraient pas, ils étaient forts. Et tout ça, on leur a sauvé la vie et c'était à la fois fou et magique. C'est la fierté du quartier, on était solidaires. On dit que l'humanité c'est ça, c'est la vie. Et la vie, ça compte les jeunes et les petits. Je suis tellement fier de moi, pour toujours. Je me rappellerai pour toujours.
Il peut l'être fier de lui, Atmounadi Walid. Un témoignage très fort et très émouvant, recueilli par Romain Oquet. On rappelle que les deux petits garçons sont absolument sains et saufs. L'un des sauveteurs, lui, a eu le poignet brisé.
À présent, cette polémique politique du jour autour d'un mot qui ne passe pas.
Ce fameux mot « incivilité » employé par le président de la République hier soir sur TF1, lorsqu'il fut interrogé sur la mort du chauffeur de bus de Bayonne, roué de coups par des passagers qui n'acceptaient pas qu'on lui impose le port du masque. La droite, Claudia Bertram, s'est immédiatement emparée du sujet.
Oui, dès hier soir, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, dénonçait un laxisme lexical qui conduit inévitablement au laxisme judiciaire, relevant le fait que le président avait répété le mot « incivilité » plusieurs fois. Le député Éric Ciotti a quant à lui interpellé Emmanuel Macron sur Twitter. Non, les meurtres de Philippe, Mélanie ou Axel ne sont pas des incivilités, ce sont des assassinats. Face à l'émoi suscité par l'utilisation de ce mot « incivilité », le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a répondu à l'issue du Conseil des ministres ce matin à ceux, dit-il, qui cherchent à polémiquer.
La question qui était posée par le journaliste était sur des situations extrêmement dramatiques, notamment à Bayonne, et puis sur ce que le journaliste lui-même a appelé des incivilités. Et le président de la République a répondu qu'il y avait une règle absolue qui était la tolérance zéro, et qu'évidemment il y avait une condamnation, une action très forte face à ceux qui s'en prennent aux serviteurs de l'État, à tous ceux qui incarnent l'autorité dans notre pays, mais également sur les incivilités. Il faisait la référence à la question qui avait été posée sur la délinquance du quotidien, et notamment l'exemple des mortiers et des rodéos.
Le porte-parole du gouvernement qui dénonce à son tour des polémiques politiciennes et qui écarte les critiques sur le laxisme du chef de l'État en ce qui concerne les questions régaliennes. Ces polémiques ne résistent pas à l'épreuve des faits menés par le gouvernement, dit-il.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1.
Et notez que dans 10 minutes, Ségolène Royal sera mon invité. Première réaction depuis l'arrivée de ce nouveau gouvernement Castex.
L'actualité à l'étranger, 2 semaines après avoir été testé positif au coronavirus, le président brésilien Bolsonaro, qui a suspendu toutes ses activités depuis, a de nouveau été testé aujourd'hui. Il est de nouveau positif. Et puis la montée des tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Chine. La Chine soupçonnée par Washington d'espionnage, qui a ordonné la fermeture du consulat de Houston. Pékin évoque de prochaines et terribles représailles.
Europe 1.
18h09, à suivre Thierry Dagiral.
Les femmes qui frappent aux portes de l'église et un inédit des Rolling Stones. C'est la suite du programme. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1.
Europe 1. 18h11, la suite du journal sur Europe 1, François Claus, Thierry Dagiral.
Et on se souvient de la candidature d'Anne Soupa à l'archevêché de Lyon. Désormais, 7 femmes ont aujourd'hui postulé à diverses fonctions au sein de l'Église catholique de France.
Oui, elles sont 7 au total, 7 comme les mercenaires, 7 comme les samouraïs. Elles sont candidates à des postes de diacre, de curé ou d'évêque, en sachant très bien, Justin Morin, bonsoir, en sachant très bien que ces fonctions leur sont interdites, mais ça les pousse d'autant plus à revendiquer cette place.
Oui, je vous donne une phrase du manifeste qui accompagne leur démarche. Notre geste n'est ni une revendication syndicale, ni une déclaration de grand principe, mais un acte salutaire de désobéissance à la doxa ecclésiale. Ces 7 femmes, toutes chrétiennes, ont déposé leur dossier officiellement ce matin sur le bureau du nonce apostolique de Paris, l'ambassadeur du Vatican en France. Et pour renforcer l'impact de leur message, elles ont créé un collectif, Toutes Apôtres. On avait effectivement beaucoup parlé de la candidature d'Anne Soupa à l'archevêché de Lyon pour remplacer le cardinal Barbarin. Eh bien, une autre femme, Sylvaine Landrivon, laïque et docteur en théologie, a elle aussi postulé. Tout l'enjeu de ses recherches, c'est justement de redonner aux femmes la place qui est la leur dans l'histoire biblique.
Ceux à qui je m'adresse, finalement, ce n'est pas tellement à l'institution ecclésiale, je m'adresse à tous les gens que l'Église catholique a fait fuir parce qu'ils ne correspondaient pas aux normes édictées par une certaine Église. Et cette Église qui nous accuse de rompre l'unité de l'Église est une Église qui vide les églises bâtiments de ses paroissiens.
Et vous l'entendez, ces 7 candidates n'attendent pas grand-chose de l'institution. D'ailleurs, Anne Soupa n'a reçu aucune réponse de la hiérarchie ecclésiastique, même pas un accusé de réception. Mais elles espèrent que d'autres femmes amplifieront le mouvement.
Merci, Justin Morin.
Attention à présent, montez le son. On termine, François, ce journal avec une pépite des années 70 oubliée et qui a été exhumée ce matin.
Ce son unique qu'on aura bien sûr reconnu Keith Richards, Mick Jagger et les autres, un titre inédit qui fut enregistré en 1974. Ça s'appelle Scarlett, vous l'avez entendu. Et les plus fins mélomanes auront peut-être reconnu le toucher d'une autre grande star de ces prolifiques années 70 de l'histoire du rock, un certain Jimmy Page de Led Zeppelin qui participait à cet enregistrement. Scarlett, qui a été mise en ligne à 10h ce matin, sera intégrée dans une réédition du mythique album Goat's Head Soup de 1973. Qui ressortira le 4 septembre prochain dans une version dite de luxe.
C'est
pas une refusée là, on sent le son, le vrai.
Rien que pour ça, un grand merci à vous François Claus, vous revenez à 18h30 pour le rappel des titres. La météo à présent. Madame Darmon, le temps demain.
Monsieur Dagiral, le temps demain, orageux sur le sud du pays et calme au nord toujours, hein, pas de changement dans notre ciel. Quoique c'est un peu plus nuageux demain parce qu'on a quand même des passages nuageux qui vont alterner avec des éclaircies un petit peu partout. Les éclaircies qui sont plus franches sur le pourtour méditerranéen, la Corse, du nord de la Nouvelle-Aquitaine au centre, à la Bourgogne, à la Franche-Comté, au Grand Est. Il pleut encore un petit peu sur les Alpes et les plaines du sud-ouest pour le matin. L'après-midi, ce sera orageux encore des Pyrénées, du Massif central, aux Alpes et le caractère orageux est plus marqué vers les Pyrénées orientales. Plus au nord, les nuages d'altitude deviennent de plus en plus nombreux aussi et le ciel va se couvrir près de la Manche où il peut pleuvoir. Les thermomètres, ils affichent 12 à 15 le matin sur la moitié nord, localement 6 seulement en Picardie, 7 en Champagne, 15 à 20 sur le sud, 20 à 23 sur le pourtour méditerranéen. Les maximales, 19 à 22 sur les côtes de la Manche, 25 à 30 sur la moitié nord, 30 à 33 sur le sud, avec des pics toujours à 36 comme aujourd'hui dans le Var et dans le Gard.
Merci Valérie Darmon, météo des plages à 18h30.
Europe 1. Le grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vous, Thierry Dagiral, et dans un instant, votre invité.
Eh bien, elle n'est pas entrée au gouvernement, mais est-ce qu'elle en rêvait? Un gouvernement dont la priorité est l'écologie, les territoires et la participation citoyenne. ça doit lui parler. L'ancienne ministre Ségolène Royal est mon invitée dans 2 minutes.
Votre grand journal du soir, c'est avec Thierry Dagiral sur Europe 1. Il est 18h18. Thierry, vous recevez à présent l'ancienne ministre socialiste de l'écologie, ancienne candidate à la présidentielle en 2007, Ségolène Royal.
Bonsoir Ségolène Royal.
Bonsoir.
L'écologie au rang de priorité de ce gouvernement Castex, les territoires, la participation citoyenne avec les conventions citoyennes. Mais c'est vous, vous auriez eu votre place dans ce gouvernement, non ?
Ah, écoutez, on me l'a proposé en tout cas.
Ouais.
Je pense que ce qui est très important...
Vous le regrettez, Mme Royal, ou pas ?
Non, parce que ça n'avait de sens que si vraiment il y avait eu une évolution politique plus profonde, c'est-à-dire une remise à niveau des services publics qui ont été drastiquement réduits au cours de ces dernières années,
ouais.
Et puis une offensive beaucoup plus forte sur la question environnementale pour lesquelles il y a eu des reculs inqualifiables au cours de ces 3 années.
C'est-à-dire que pour vous, ça ne va pas assez loin ? En tout cas, il y a trop de rattrapage, finalement ?
Déjà, ça supposerait une remise à niveau de tout ce qui a reculé. Vous voyez, de tout ce qui a reculé, les échéances sur la diminution du nucléaire qui ont reculé, les permis miniers qui ont été redonnés, des autorisations sur la déforestation qui ont été organisées, l'affaiblissement des protections des établissements classés, c'est-à-dire des usines dangereuses en termes chimiques qui a été entériné, l'affaiblissement des protections des sites naturels. Enfin, il y a eu énormément de recul et puis un retard très fort aussi sur l'application de l'accord de Paris sur le climat.
Ouais. Pour la première fois, je voudrais qu'on parle de ce plan de relance européen annoncé hier par Emmanuel Macron. Pour la première fois, un accord européen intègre l'environnement. L'Europe se fixe comme objectif de consacrer 30% de ses dépenses à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont des effets d'annonce ou c'est une réelle prise de conscience des Européens ?
Déjà, ce qu'il faut souligner, c'est le fait qu'enfin, on a une relance européenne qui était attendue d'ailleurs depuis plusieurs mois, depuis le début du confinement, puisque certains pays n'ont pas attendu, comme l'Allemagne, pour relancer la machine économique. Donc ça, c'est un élément très important. Souvenez-vous de ce qui s'était passé pendant la crise financière de 2008, où l'idéologie européenne à ce moment-là était l'austérité, c'est-à-dire on avait forcé des pays, notamment la Grèce, les pays du Sud, qui souffraient plus fortement, à réduire leurs dépenses publiques. Donc là, il y a vraiment un renversement de logique, c'est-à-dire la dépense publique est enfin considérée comme un élément clé de la relance économique et le rôle des États également, même si on peut quand même regretter que au fond ce soit du déficit et qu'on aurait pu en même temps, mais il n'est pas trop tard, créer aussi des ressources propres à l'Europe, comme la taxation sur les transactions financières qui est maintes fois évoquée, mais là c'était l'occasion parce que vous voyez la bourse se porte bien, mais c'est l'économie réelle, c'est les entreprises qui produisent, qui subissent la crise de plein fouet. Or, avec un taux de 0,1% sur les transactions financières, ça produit 50 milliards par an. Donc,
on
aurait très bien pu, au lieu de creuser les déficits, vous voyez, avec une ressource propre. Alors, on évoque aussi, vous savez, la taxe sur les géants du numérique. On évoque aussi la taxe carbone aux frontières. C'est-à-dire pour lutter contre les produits qui ne respectent pas l'environnement et donc qui profitent de normes plus faibles à l'extérieur de l'Europe qu'à l'intérieur.
Ouais.
Donc, ce qui est en retard, c'est la mise au point de toutes ces ressources propres qui permettraient de ne pas creuser les déficits et de ne pas reporter sur les générations suivantes le poids de ce plan de relance.
Madame Royal, Barbara Pompili est maintenant à la tête de ce ministère que vous connaissez si bien. Quel conseil vous pourriez lui donner ? Elle est seule face à Bercy, même s'il y a un plan de relance verte. Elle peut exister en tant que ministre de l'Environnement ?
Regardez ne serait-ce qu'à l'égard de ce plan européen, puisque comme le disait très justement Angela Merkel, tout reste à faire. Hein, il y a une sorte de contraste entre la déclaration un peu emphatique d'Emmanuel Macron sur le moment le plus important de la vie de notre Europe depuis la création de l'euro. Bon, c'est bien d'encourager de tenir des discours positifs, mais moi je préfère la sobriété d'Angela Merkel qui dit que tout reste à faire, c'est-à-dire que à partir de ces annonces, il faut les transformer en actions opérationnelles. Et de ce point de vue, si on veut qu'il y ait une priorité environnementale en tant que création d'activités et d'emplois, en effet, tous les ministres doivent se mobiliser sur cette question-là, mais aussi tous les territoires.
D'ailleurs, je vous annonce que pour la première fois, les énergies renouvelables constituent l'énergie la plus importante dans la production d'électricité en Europe. Mmh. Donc, il faut vraiment accélérer ce mouvement et faire en sorte que l'Europe mette en avant des projets extrêmement précis et enthousiasmants. Mmh. Vous avez remarqué, par exemple, les débats, là, on a entendu parler plus du chèque, des 700 milliards, 800 milliards, est-ce que ça allait descendre, est-ce que ça allait monter. Et les peuples, les opinions publiques, ont été totalement écartées de cette discussion, puisqu'à aucun moment, on a entendu parler d'un projet concret, ne serait-ce qu'un projet concret qui allait entraîner l'Europe, permettre des investissements, permettre des créations d'emplois. Or, c'est ça aussi. C'est
justement,
là où il y a une urgence.
Madame Montréal, quand vous voyez en France que Barbara Pompili a en charge de mettre en œuvre les mesures de la Convention climat par la participation citoyenne, c'est bien sûr la bonne méthode. C'est ce qu'il manquait jusqu'ici. C'est ce que vous vouliez, vous.
Oui, vous vous souvenez, oui.
Je m'en souviens plus.
Ça fait plus de 10 ans.
Exact.
Et même dans ma région, Poitou-Charentes, j'avais mis en place non seulement la participative, mais aussi les budgets participatifs. Hein. Donc c'est un élément complémentaire, bien sûr, de ce qui existe déjà. Mais ce qui est très important, surtout, ce sont les arbitrages budgétaires aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut c'est rétablir ce qui a été bizarrement, d'ailleurs, détruit depuis 2-3 ans, ce crédit d'impôt de transition énergétique, pour que les gens puissent faire les travaux d'isolation de leur logement et puis obtenir des baisses d'impôts correspondantes, ça a été supprimé. C'est absurde, c'est dommage, puisque ça marchait bien. Vous voyez, il faut pas qu'un gouvernement qui arrive
retire tout ce qui a été fait.
Ce qui marche. Retire ce qui marche, parce que c'est dur, c'était difficile pour moi d'obtenir ça, et c'était une bataille contre le ministère des Finances. Donc là, ce qu'il faut, c'est remettre à niveau des actions concrètes qui étaient très efficaces et qui avaient permis de créer beaucoup d'emplois dans le secteur du bâtiment. Bon, ben c'est le crédit d'impôt de transition énergétique, où il y avait aussi les territoires énergie positive qui marchaient très très bien. Et en plus, avec l'amélioration des techniques du bâtiment, ça permet de réduire la facture énergétique. Donc c'est vraiment un investissement très vertueux.
Dernier
et vous voyez,
point.
Ça par exemple, ça aurait pu être annoncé au niveau européen.
Dernier
comme une initiative
point, Madame
passive.
Royal. Question politique pour terminer. Il y a cette union des maires socialistes écologistes qui a eu lieu à Tours il y a quelques jours. Il se passe quelque chose. Anne Hidalgo a réussi à Paris à faire ce que vous rêviez de faire finalement, union de la gauche, des écologistes. Anne Hidalgo pourrait être candidate en 2022.
Oh, je pense que ce n'est pas d'actualité pour l'instant. Vous savez,
ça vient vite.
Les échéances présidentielles. Mais cette union de la gauche et des écologistes, moi, je l'ai pratiquée dès 2004 quand j'étais à la tête de la région.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui prouve, bien sûr, qui prouve son efficacité.
Faites-moi une confidence, Madame Royal. Est-ce que vous y pensez encore en ce moment à la présidentielle?
Bah, écoutez, c'est un secret pour personne. Bien sûr que...
Vous vous y préparez, là, actuellement.
Si je sens... Bien sûr, oui, bien sûr. Parce qu'il faut être prête pour ce type d'échéance très lourde. Et puis, mais ça n'a de sens que s'il y a une dynamique de rassemblement, une dynamique d'union. Vous voyez, si on est capable de réunir la gauche et les écologistes, comme j'ai pu le faire sur les territoires dont j'avais la responsabilité, et comme la démonstration vient d'en être faite dans toutes les communes où cette union a permis... Non, la victoire, mais pas seulement la victoire pour faire des choses, vous voyez, la victoire pour agir.
Ouais.
C'est ça qui est important en politique.
Ségolène Royal, ce soir, sur Europe 1. Un grand merci à vous, merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1. Jusqu'à 20h, vous écoutez Thierry Daviral. À suivre dans ce grand journal, le rappel des grands titres de l'info de ce mercredi 22 juillet. Il y aura aussi la météo des plages de Valérie Darmon et puis les grandes voix.
Ce soir, c'est Carole Barjon et Marie-Ève Balloun qui vont nous rejoindre. On va parler des emplois pour les jeunes. C'est important parce que les annonces devraient intervenir demain, alors qu'en ce moment même, Emmanuel Macron est en train de parler aux jeunes à Chambord. Et puis, on va parler du Ségur de la santé. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, patients? 39-21 pour nous joindre. À tout de suite.
Le grand journal du soir, la suite Thierry Daviral, il est 18h30.
Avec l'essentiel de l'actualité, François Claus.
Une défaillance du turbo de la Scénic qui s'est enflammée, paralysant le système de freinage de la voiture. Voilà les premières conclusions des experts qui enquêtent dans la tragédie routière de l'A7 qui a coûté la vie à 5 enfants. Le recteur de la Grande Mosquée de Lyon a organisé lui une prière d'hommage et de soutien cet après-midi à la famille d'origine algérienne de Vénissieux, décimée par l'accident. C'est un terme qui passe mal. L'opposition, les Républicains condamnent l'emploi par le président de la République du mot incivilité en répondant à une question sur le drame de Bayonne. Le chef de file des sénateurs, les Républicains, Bruno Retailleau, estime que ce laxisme lexical conduit au laxisme judiciaire. Fin de citation. Le président Macron, tout juste rentré de Bruxelles, reprend son bâton de pèlerin au plus près des Français pour une visite à Chambord auprès des enfants en situation de vacances apprenantes. Illustration de ce qui sera la thématique des 600 derniers jours du quinquennat. Priorité jeunesse. La présidence de France 2, le CNSA vote pour la continuité. L'actuelle présidente Delphine Ernotte est reconduite dans ses fonctions à France Télévisions. La montée des tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Chine. Washington ordonne la fermeture du consulat chinois à Houston. Texas, soupçonné de s'ingérer dans les affaires de l'État, en clair d'espionner. Pékin menace Washington de représailles. Ces tensions entraînent une chute à la Bourse de Paris ce soir. Une baisse de 1,32%. Le CAC à 5037 points. Et puis Mbappé qui rassure ses fans sur beIN Sport, la pépite du foot français, confirme qu'elle sera bel et bien encore au PSG la saison prochaine. Mbappé qui est sous contrat avec le club parisien jusqu'en 2022.
Merci François Claus, prochaine édition complète sur Europe 1 à 19h. La météo des plages, alors on perd un peu de soleil sur la Serviette demain, Valérie Darmon.
Absolument Thierry, a commencé par l'arc atlantique avec de la brume depuis l'Orient ou encore la Baule jusque sur Rendaille en passant par l'estuaire de la Gironde et des températures sous ce voile nuageux de 28 degrés pour un océan entre 17 et 23, 23 sur la côte basque. Nuageux également le long de la Manche avec des valeurs entre 21 et 26, 21 pour Honfleur, 26 pour Saint-Malo, 24 pour Brest et une Manche très calme entre 18 et 19 degrés. La Méditerranée qui tire son épingle du jeu avec du soleil absolument partout, mais quelques nuages et un petit peu de pluie sur le Roussillon avec une eau entre 20 dans l'Hérault et 26 dans les Alpes-Maritimes.
Merci Valérie Darmon.
Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. L'actualité décryptée par nos grandes voix, c'est maintenant avec vous Thierry Dagiral. Et ce soir, deux éditorialistes politiques, Carole Barjon et Marie-Ève Malouine.
Et bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être présents dans le studio d'Europe 1 ce soir. Dans un instant, on va parler de l'hôpital de demain avec bien sûr le Ségur de la Santé, le deuxième volet du Ségur de la Santé. Surtout, qu'est-ce que ça va changer pour nous, patients. Mais on va commencer par l'emploi des jeunes, les jeunes et l'emploi. Quel avenir, quelle perspective normalement. Demain, Jean Castex devrait faire des annonces. En ce moment même, Emmanuel Macron est à Chambord, où il parle vacances apprenantes. Il y a un travail intensif en ce moment à Bercy, avec les partenaires sociaux, avec notamment la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Sans doute donc pour ces annonces demain, un plan qui devrait être opérationnel dès la rentrée, parce que ça urge, Marie-Ève Malouine.
Oui, alors on n'a pas très bien saisi si le plan, il y a le plan sur le plan économique, sur l'emploi, des choses qui vont se passer dès la rentrée. Et puis, les quartiers d'été, juste par principe, puisque c'est des quartiers d'été, on imagine qu'il y aura des mesures dès cet été. Et donc, c'est plutôt une mobilisation de crédit et pour permettre aussi aux associations, aux maires, d'aider les jeunes qui passent leurs vacances dans les quartiers pour aussi que les vacances et cet été se passent bien, qu'il y ait un peu de tranquillité. Je crois que c'est aussi quelque chose qui inquiète un peu, qui préoccupe le gouvernement, à savoir que les vacances se passent dans le calme ces quartiers qui ont vécu difficilement toute cette période de confinement.
Carole Barjon, il faut bien sûr le rappeler, ce dossier de l'emploi des jeunes, il est colossal. Il y a ce chiffre, 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail à la rentrée là.
Oui, il y a le feu. Oui, mais et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'Emmanuel Macron, lors de son
discours
intervention
du 14 juillet,
avait dit que on allait en fait, et c'est le gouvernement va essayer de reculer l'arrivée des nouveaux entrants sur l'arrivée sur le marché du travail, en prolongeant en fait leur formation, leurs études, etc. Effectivement, mais toute la question, c'est celle de la formation.
Bien sûr.
Qu'on va leur donner. Et là-dessus, moi, j'avoue que j'ai un petit doute. Parce que,
pourquoi ?
Parce que le problème de la formation est un problème absolument essentiel, que ce soit d'ailleurs pour le travail des jeunes ou le travail des adultes.
Oui, tout à fait.
Et c'est quelque chose qui pêche depuis très longtemps.
Ouais.
Il y a eu une réforme de la formation professionnelle engagée par Emmanuel Macron, effectivement, au début de son quinquennat. Mais elle ne m'apparaît pas totalement convaincante parce qu'on a transformé en réalité ce qui était un quota d'heures de formation en forfait, en argent, ce qui n'est pas la même chose.
Oui.
Si on a besoin d'un certain nombre d'heures de formation, c'est pas par un forfait, il faut continuer de compter par heure. Donc il y avait ça. Mmh. Et puis d'autre part, on sait très bien que tout le système des entreprises qui assurent des formations n'a pas été totalement réformé non plus. C'est-à-dire qu'on a souvent, on doit souvent choisir, là je parle plus pour les salariés qui sont déjà en emploi que pour les jeunes, mais on a souvent à choisir entre des formations qui sont proposées par des boîtes de formation que des formations qui sont adaptées à ce que vous cherchez, à ce que vous souhaitez.
Oui. Et puis, Marie-Ève Malouin, allez-y.
Non, j'approuvais totalement ce que disait Carole. Et en plus, le problème des formations, c'est aussi de savoir de quelle formation on a besoin. Et l'orientation est assez difficile. Ce n'est pas si évident que ça de trouver.
Et puis, il y a dans cette interview du 14 juillet, on se souvient de ce dispositif pour embaucher les jeunes avec exonération des charges, compensation, crédit à valoir. Donc, 4 000 euros sur un an pour les moins de 25 ans. Le MEDEF, d'ailleurs, voudrait que ce soit 27 ans.
Oui, ça c'est une mesure, on ne peut pas la critiquer. Je crois que tout le monde est d'accord, ça facilitera, ça encouragera l'embauche de jeunes. Parce que l'important après cette crise, entre les jeunes qui vont sortir sur le marché du travail, ceux qui y étaient déjà, qui ne trouvaient pas de travail, on annonce 800 000 à 1 million de chômeurs en plus. Vous avez des jeunes qui ont fait leur formation, ils se retrouvent sur le marché du travail où c'est bouché, ils vont commencer un petit peu à être désespérés. Bien déjà qu'ils ne votent pas parce qu'ils ne voient pas à quoi sert l'action politique. Ouais. Déjà, si ensuite ils ne trouvent pas de travail, après ils ont des relations un petit peu tendues avec les représentants de l'État, les forces de l'ordre, ils sont aussi un terreau pour certains extrémismes. Et donc ces jeunes-là, il faut les réintégrer, les ramener dans la société, qui leur disent « vous avez votre place et on travaille à ce que vous ayez votre place ». Si tous ces jeunes-là se retrouvent sans travail, ça commence à être un engrenage dangereux et leurs parents aussi vont participer à cette même désespérance.
Et on le sait maintenant, ça concernera aussi les CDD à partir de 3 mois. Carole Barjon.
Oui, non, j'approuve absolument ce que vient de dire Marie-Ève et je dirais les choses même de manière plus cash. Allez-y. Je pense que c'est un sujet politiquement explosif, effectivement, parce que des jeunes massivement sans emploi et leur famille, Marie-Ève a eu raison de le rappeler, parce qu'il y a aussi les parents, les proches, ce sont des gens qui vont vers les extrêmes ou qui sortent totalement du système et au fond ça revient un peu au même pour ce qui est de la vie démocratique du pays.
Allez, les jeunes, l'emploi, on va justement donner la parole dans un instant à un auditeur jeune, 24 ans, il est étudiant, qu'est-ce qu'il en pense lui? A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
On retrouve Thierry Dagiral pour la suite du Grand Journal du soir. 3921 pour réagir au débat des grandes voix. 3921, c'est le standard d'Europe 1. Et on parle ce soir des emplois pour les jeunes et du Ségur de la santé avec deux éditorialistes politiques, Marie-Ève Malouin et Carole Barjon.
Et à l'instant, donc, le président Macron s'exprimait depuis Chambord. Ce que notre pays vient de traverser est un sacrifice énorme pour notre jeunesse. Il a ajouté que notre jeunesse a subi beaucoup de cette crise. Pour ceux qui avaient des examens, des concours à passer, et pour ceux qui allaient rentrer dans l'emploi. Donc voilà, on écoutera bien sûr en détail et on sera à Chambord dans le journal de 19h. Il y a cette prise en compte d'Emmanuel Macron très forte, cet engagement très fort, Marie-Ève Malouin.
Oui, ce que je ne comprends pas, c'est le terme de sacrifice, puisque tout le monde a souffert, personne n'a été sacrifié. Un sacrifice, c'est quelqu'un qui est un innocent, qui paye pour que les autres s'en sortent un peu. Et les jeunes n'ont pas été plus sacrifiés que les autres, ils ont peut-être plus souffert, ils sont en position peut-être d'avoir encore plus de difficultés, mais le terme sacrifice a une part de fatalisme que je trouve un peu décourageant de dire qu'ils ont été sacrifiés. Ils ont souffert comme tout le monde et il faut tout faire pour qu'ils puissent s'en sortir.
On parlait tout à l'heure, avant la pause, de cette aide pour embaucher des jeunes. Le Sénat, lui, défend, Carole Barjon, une prime à l'embauche plus large. Il faudrait aller plus loin. Le MEDEF dit 27 ans. Le Sénat dit encore plus large.
Le MEDEF dit 27 ans et aussi il veut reculer l'âge limite auquel on donne on exonère les charges pour l'employeur.
Oui.
Bon, donc c'est pour dire que c'est quand même encore en discussion.
C'est encore
en
discussion.
C'est pas tranché.
Ouais.
Moi, je pense qu'il faut faire un maximum pour les jeunes parce que comme on le disait à l'instant.
Bien sûr.
C'est politiquement explosif. Et d'ailleurs, c'est tellement politiquement explosif que Macron a aussi annoncé quand même des parcours d'insertion, 300 000 parcours d'insertion.
Exactement, hein, 300 000, tout à fait.
Voilà, ce qui fait dire à certains que c'est en fait le grand retour des contrats aidés.
Des emplois aidés, oui.
Qu'on avait supprimés. Voilà, il faut absolument mettre le paquet. Et d'ailleurs, au sein du gouvernement, il y a débat. Hein. Y a des gens qui voulaient même éventuellement remettre le... Enfin, pas remettre, mais étendre le RSA aux jeunes, ce genre de choses. Bon, ce qui prouve que tout le monde a conscience que l'heure est grave. Après, effectivement, il faut mettre les moyens.
Alors, on va donner la parole aux jeunes qui nous écoutent, 3921. C'est Théo qui nous a appelé. Bonsoir, Théo.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Nancy. Vous êtes étudiant, diplômé ?
Jeune diplômé.
Jeune diplômé. Félicitations à vous.
Merci.
On vous écoute sur ce plan jeune. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous avez 24 ans.
Ah mais c'est super encourageant pour nous, parce que je ne vous cache pas que quand on est jeune diplômé et quand on sort de l'école, les entreprises rechignent un petit peu à nous embaucher parce que ben, on n'a pas de première expérience. Et quelque part, ça peut nous aider à avoir cette première expérience tant attendue. Mmh. Alors, il y a beaucoup de stages, des choses comme ça. Mais parfois, il n'y a souvent pas d'emploi derrière.
Des stages trop longs.
Et ça, c'est beaucoup trop long. Ouais. Moi, je connais des amis à moi, ça fait un ou deux ans qu'ils ont eu leur diplôme, ils n'arrivent pas à trouver de travail. Ouais. Et ça, je pense vraiment que ça peut nous encourager les entreprises à nous embaucher, parce qu'il leur faut aussi un petit coup de pouce, parce qu'effectivement, on est jeune diplômé, on n'a pas d'expérience, mais il faut nous donner cette première expérience. Et ça, pour moi, c'est un tremplin.
Bravo, merci à vous, Théo, donc, qui vient d'être diplômé d'école d'ingénieur. Bonne route à vous, Théo. Merci de nous avoir appelé au 3921. C'est vrai ce que dit Théo, finalement, Carole Barjon. Trop de stages, l'entrée dans le marché du travail, c'est un supplice pour ces jeunes.
Oui, je dirais encore davantage pour des gens
de sacrifice,
qui n'ont pas la chance comme Théo ou Thomas, pardon,
Théo. Théo. D'être diplômé et d'avoir une bonne formation.
Il est ingénieur,
bien
c'est
sûr.
Quand même un métier formidable dont on a besoin en ce moment. Le problème, c'est tous ceux qui se dirigent vers des études dont on sait qu'elles n'offrent pas de débouchés formidables et qu'il faudrait peut-être, là, pour le coup, réorienter.
Ouais, ouais.
Mais lui, à la limite, je dirais, je pense qu'il...
J'espère
qu'il va faire son chemin.
Maintenant,
effectivement, il ne faut pas que les entreprises, et d'ailleurs, je crois que Macron l'a dit lors du 14 juillet, qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui exagéraient avec les stages, avec des stages très, très, très prolongés. Et il faut faire cesser ce genre de pratique.
Allez, on termine, on arrête le sujet sur l'emploi jeune. On va passer à l'hôpital public, à ce deuxième volet du Ségur de la santé. C'est une avancée importante, Marie de Malouine.
Oui, il y a vraiment un changement d'état d'esprit, parce que jusque-là, il y avait des grèves dans les services d'urgence, notamment. L'hôpital était dirigé d'en haut avec ce fameux comité de performance et de modernisation.
Ce qu'on disait, dirigé comme une entreprise, etc.
Voilà,
avec
il fallait être rentable. Et là, maintenant...
Le pouvoir aux médecins.
On redonne le pouvoir aux médecins, on redonne de la souplesse avec la possibilité de créer des lits, par exemple, au Pays Castival. Il y a des villes qui doublent leur population.
À la demande.
Voilà, avec 50 millions à partir de 2020. Donc, ça redonne de la souplesse dans l'organisation de l'hôpital et une organisation qui ne sera plus uniquement financière. Alors, maintenant, pour l'instant, c'est sur la table. C'est plutôt bienvenu pour certains syndicats. La CGT dit que c'est pas assez, puisqu'on ne va pas réouvrir les lits qui avaient été fermés depuis le début de ce quinquennat.
C'est ça, il
mais
dit c'est un rattrapage.
La tonalité a changé, c'est plus Paris qui décide. D'en haut, à travers les ARS, c'est l'hôpital, les médecins qui vont être aussi déchargés de certaines tâches administratives. Donc, il y a un vrai changement de pied.
Le collectif Interhôpitaux, par exemple, dit aussi bonnes intentions, mais pas assez d'argent. Carole Barjon.
Bon, c'est jamais assez. Hein.
C'est jamais assez.
mais enfin, quand même, il était temps. Hein. Il était temps, parce que on a quand même ce qu'on a vu, et ce plan d'ailleurs le démontre.
Ouais.
Parce que, au fond, c'est une sorte de, comment dire, de désaveu de tout ce qu'avait fait Agnès Buzyn, dont on voit qu'elle n'avait pas pris la mesure du problème.
Alors,
peut-être ne lui en donnait-on pas les moyens, mais en tout cas, clairement, c'était insuffisant, elle s'était repris à deux fois, les manifestations, etc. Donc il n'était que temps de répondre sérieusement, je dirais.
C'est ça, la question c'est, est-ce qu'elle vraiment, la réponse est sérieuse, efficace, que ça va changer les choses, Marie de Malouine?
Alors il faut qu'ils discutent et qu'ils revoient l'organisation de l'hôpital. Moi, ce qui m'a frappé pendant le Covid, c'est de voir qu'en Allemagne, la santé coûtait moins cher, ouais, et on ne pouvait pas dire qu'elle était moins performante bien que sûr la France, au ouais contraire, alors que les personnels soignants étaient mieux payés que les Français. Donc on se dit, il y a quand même un problème d'organisation. Et ça, il faut le remettre sur la table. Il ne suffit pas de réinjecter de l'argent. Il fallait revaloriser les salaires, puisqu'ils étaient parmi les plus bas d'Europe. Mais il y a quelque chose à voir dans l'organisation. Est-ce qu'elle doit être plus souple? Est-ce que les médecins doivent avoir plus la main? Est-ce qu'il faut mieux travailler avec la médecine de ville aussi? C'est un des points importants, puisque là, on a l'impression qu'on négocie avec l'hôpital, mais il y a aussi la médecine de ville. Il faudrait sûr faire le lien entre
qui
les deux.
Qui semble assez oublié. Alors, je crois qu'il y aura des choses tout, à la rentrée.
Alors, moi, j'abonde absolument dans ce sens, ouais, parce qu'on a bien vu qu'effectivement, la gestion en Allemagne, qui a été quand même plus efficace que chez nous pendant la crise du Covid, c'était effectivement parce qu'il y avait à la fois les lenders, donc une décentralisation, ouais, c'était plus les collectivités locales qui géraient ça, et par ailleurs, voilà, une grande symbiose entre le privé et le public. Mmh. Et ça, c'est un des points sur lequel le gouvernement va devoir travailler. Il faut peut-être aussi...
Il y aura des négociations à la rentrée.
Inciter, oui, mais il faut inciter aussi plus de médecins à s'installer en ville. Enfin, il reste les déserts médicaux et à s'installer ailleurs, ouais, que dans les grandes métropoles. Donc, il faut qu'il y ait tout ça. Et par ailleurs, il y a un petit volet qui est... Comment dire, c'est les 35 heures à l'hôpital,
oui,
bon, qui ne sont pas remises en cause, alors qu'on sait que ça avait été une catastrophe. Enfin, je veux dire,
c'est là que les ennuis ont commencé. Hein.
C'est ça.
Bah, bien entendu. Donc, et alors, il y a eu une annualisation du temps de travail, donc peut-être que ça va changer un peu les choses. Mais il faut juste, je voudrais juste dire, parce que
allez-y,
c'est vrai qu'en Allemagne, les infirmières sont mieux payées, mais elles travaillent beaucoup plus longtemps.
Allez, on marque une pause. On continue bien sûr dans un instant à parler de ce Ségur de la santé acte 2. Surtout, qu'est-ce que ça va changer pour nous patients? A tout de suite.
Europe 1.
Le grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h. On retrouve nos grandes voix ce soir. Carole Barjon, Marie-Ève Malouin, deux éditorialistes politiques pour décortiquer l'actu à vos côtés, Thierry Dagiral.
Et on parle de l'acte 2 de ce Ségur, fameux Ségur de la santé. Est-ce que c'est une avancée? Question que je vais poser à Louis. Bonsoir Louis.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez des Côtes d'Armor, vous avez 48 ans.
C'est ça.
Vous êtes dans la profession?
Oui, je suis infirmier.
Ah, vous êtes infirmier, donc directement concerné.
Ouais.
Votre action?
Justement, non.
On vous écoute.
Oui, parce que je ne voudrais pas... Alors ça revient à ce que disait tout à l'heure madame. C'est qu'en fait, on ne fait pas assez la différence quand on fait les annonces, là, sur tout ce qui va arriver pour les infirmiers, entre... Ouais. Le public,
exact,
et ce n'est pas public.
Bien
voilà
sûr.
En fait, le Ségur de la santé, c'est le Ségur de l'hôpital public et non pas de la santé.
Mmh,
or, la santé, c'est beaucoup plus large que ça.
Bien sûr, c'est
moi,
ce que vous disiez juste
avant.
Moi,
je ne suis pas prêt de voir une augmentation ou de prime Covid ou je ne sais pas quoi, alors que...
Oui, parce que vous êtes infirmier en libéral, donc c'est pour ça, d'accord, je comprends mieux. Donc
pas du tout.
D'accord.
Je suis pas en libéral.
Bon.
J'ai fait du libéral, mais je ne suis pas en libéral, je suis dans le social, moi. Je suis l'aide sociale à l'enfance.
D'accord,
voilà,
d'accord.
Alors, l'aide sociale à l'enfance qui a été totalement oubliée ces derniers mois,
ouais,
dans la crise du Covid notamment. Quoi.
D'accord.
Et donc, effectivement, les gens, en fait, soutiennent les infirmiers, les soignants, en règle générale, ils ont raison, mais il faut qu'ils comprennent qu'un infirmier, c'est pas forcément une infirmière, parce que pour eux, c'est souvent une infirmière, elle est en blouse blanche, et ben c'est pas toujours le cas, c'est beaucoup plus large que ça. Moi, j'estime que je fais un travail très intéressant, mais qui est sous-payé, ça c'est sûr, je suis payé moins cher qu'à l'hôpital, et donc on va dire, on va augmenter les gens de l'hôpital, ben oui, c'est bien, c'est bien, mais voilà, il y a d'autres qui ont souffert aussi de la crise sanitaire, qui continuent à en souffrir,
bien sûr,
puisque il y a des hôpitaux privés, il y a des centres en psychiatrie, par exemple, en Côte d'Armor, il y a trois hôpitaux qui sont tous privés. Voilà. Donc c'est important de le savoir parce que, voilà, je ne voudrais pas qu'on trompe les gens, en fait.
Non, mais bien sûr, vous avez...
Ça y est, on a traité le problème.
Tout à fait.
Quoi. Bah, non.
Mais merci,
bah,
d'avoir...
Non.
Merci de nous avoir
voilà,
signalé, merci, en effet, ce problème 39-21. Merci à vous, Louis.
Merci.
La question reste entière, mesdames, tout de même aussi. Comment on va désengorger les urgences? On le sait, elles sont prises d'assaut. Comment on peut créer une médecine efficace de proximité?
Il faut, je crois, revenir avec la médecine de ville et les médecins généralistes qui puissent intervenir, parce que sinon, tout le monde va aux urgences.
Bien sûr.
Quel que soit le niveau de gravité, on a, même si le 15 dans certains endroits peut filtrer, mais on se retrouve, quand on va aux urgences, suivant ce qu'on a, on se retrouve avec des gens qui ont plein de petits bobos, où vous pouvez essayer, par exemple, de trouver un médecin qui vous reçoive tout de suite. Ça n'arrive pas. Donc, il faut vraiment réorganiser. Je voudrais juste dire par rapport au témoignage de Louis,
ouais,
effectivement, il a raison, il y a toute l'aide sociale, il y a les auxiliaires de vie, Il y a les gens qui se déplacent pour accompagner les personnes qui sont en état de fragilité et qui ont continué à travailler pendant le Covid et ne sont pas concernés par tout ce mouvement. Et ce sont des gens qui ont continué à travailler avec beaucoup de dévouement. Ils ne font pas partie du plan, on n'en parle pas assez parce qu'ils font un lien social extrêmement important.
Carole Barjon, dans les propositions, enfin dans les annonces hier, les 33 mesures annoncées par le ministre de la Santé, Olivier Véran, il y a aussi les téléconsultations. Le ministre a annoncé le maintien de leur prise en charge à 100%. Et on va aussi vers un assouplissement aux spécialistes. C'est une bonne chose ? C'est l'avenir de la médecine ? Ça non. permet aussi de désengager enfin, éventuellement
Non, c'est une solution,
De pauvre
Provisoire. Non, mais surtout, comment ça, éventuellement provisoire, enfin partiel, voilà. Mais bien entendu que rien ne remplacera jamais, la consultation physique bien et sûr. Le fait que ce qu'on appelle la palpation en médecine, ouais. Ce qui est fondamental, même si mon mari est médecin. Et je veux dire, il regrette beaucoup que cette fonction-là disparaisse même dans la formation, ouais. enfin des études en médecine. Donc je pense que c'est une solution de secours, la téléconsultation, mais ça n'est en aucun cas la panacée.
Il y a le diagnostic, il y a aussi l'aspect psychologique également.
Mais bien entendu.
La relation avec le patient, on va dire.
C'est très bien parce que ça peut rendre service ponctuellement, mais c'est certainement pas à généraliser. Par ailleurs, je voudrais juste quand même dire que Louis avait une très bonne formule quand même sur le fait que c'était pas le Ségur de la santé, que c'était le Ségur de l'hôpital public.
Ouais, tout à fait.
Effectivement.
Ouais. Marie Malouine, Olivier Véran veut ensuite généraliser aussi l'expérimentation des hôtels hospitaliers dès 2021 pour les soins de journée. Est-ce que ça, c'est un gadget, c'est une avancée ?
Ça, c'est un peu entre les deux. C'est une façon d'hospitaliser moins longtemps, ça coûte moins cher, mais dans ce cas-là, il faut aussi que les gens, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, il faut que les gens puissent être accompagnés à leur retour à domicile. C'est vrai que les gens qui viennent sur une journée, ça coûte moins cher que les gens qui restent plus longtemps. Mais ça permet aussi d'avoir des structures plus proches aussi des gens dans les zones où il n'y a pas d'hôpital, où on parle de désert médical. Mais c'est un premier pas, c'est comme la téléconsultation. C'est un élément qui peut rendre service, mais ce n'est pas l'équivalent.
Voilà ce que l'on pouvait dire en tout cas ce soir sur cet acte 2 du Ségur de la santé. Et auparavant, on a parlé de l'emploi des jeunes. Merci à vous deux, mesdames. Merci beaucoup.
Bonsoir.
Merci
Bonne soirée.
À vous.
Europe 1, 18h56, à suivre Thierry Dagirel.
Dans un instant, le journal de 19h, on sera à Arcachon. Beaucoup de monde sur place, vous êtes bel et bien restés en France cet été. À tout de suite.
Europe 1.